Bonjour à tous.
C'est parmi ces jeunes filles du lycée Lavoisier à Montrouge que se trouve celle qu'ici on appelle déjà l'élue. Monique, 15 ans, une jeune fille comme les autres. Pourtant, depuis le 17 mai dernier, Karl Marx lui serait apparu trois fois.
Bienvenue sur les nouveaux chemins où cette semaine, parvenue à ce tournant, nous avons ressenti le besoin de contempler, avec le regard d'aigle de la pensée, le passé et le présent de Marx, afin de prendre conscience de sa vraie position. Sous les feux de sa critique, nous avons examiné la misère de la politique lundi, l'histoire de la lutte des classes hier, et demain, nous examinerons l'examen lui-même en nous penchant sur sa méthode. Mais aujourd'hui, c'est la monnaie que nous passons au crible de sa pensée, la monnaie tout autant fétiche, magique, automatique que mythique. Et c'est toute l'équipe des Nouveaux Chemins que j'idolâtre pour ma part et qui vous apparaît tous les jours. Marianne Chassor, Marie Aubert, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette, avec à la lecture des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meige.
Les parents de Monique, secoués certes par cet événement, s'efforcent de maintenir autour de leur fille une atmosphère familiale normale.
Nous, on est plutôt centristes.
Oui, enfin, quand ma femme dit centriste, c'est plutôt centre-gauche. Hein. Que ça soit arrivé à Monique, c'est pas tout à fait un hasard.
Monique, elle, n'est ni centriste, ni centre-gauche.
Très gentil.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit la première fois qu'il t'est apparu?
L'homme est un loup pour l'homme.
Et il n'a pas fait d'allusion à la politique mondiale d'aujourd'hui?
Non, il disait... « Approche, petite, n'aie pas peur, je vais pas te manger, je suis Karl Marx. » Très gentil.
Dieu est un scandale qui rapporte. Tels sont les mots de Charles Baudelaire dans Fusée. Marx, à son tour, parle de la propriété occulte de l'argent. Et quant à notre invité du jour, Bruno Pinchard, voici ses mots. La descente dans les enfers de l'argent dénonce le magisme latent des sociétés apparemment rationalisées. Mais pour élucider ces magies et cet occultisme du capital, il reste à comprendre les mécanismes moins visibles de la religion, les fantasmes idolâtriques habitant le fait religieux lui-même. Et à voir que l'homme y est doublement aliéné, du côté de l'or et de la piété. Et notre invité d'ajouter, le capitalisme est une machine qui produit, de façon immanente et permanente, de la croyance et des biens, de l'adulation et des richesses. Cette totalité en marche est la découverte de Marx. Pour nous aider ainsi à saisir toute la découverte de Marx de ce capitalisme de biens et de croyances, découverte qui en a fait un mythe, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Pinchard, donc à qui l'on doit ces phrases, dans son ouvrage Marx à rebours. Bruno Pinchard, professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3, à la chaire de philosophie de la Renaissance et de l'âge classique, président de la Société Dantesque de France et auteur également de Métaphysique de la Destruction, disponible aux éditions Peters. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour. De l'or. De l'or jaune, étincelant, précieux. Non, Dieu du ciel, je ne suis pas un soupirant frivole. Ce peu d'or suffirait à rendre blanc le noir, beau le laid, juste l'injuste, noble l'infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche. Cet or écartera de vos autels vos prêtres et vos serviteurs. Il arrachera l'oreiller de dessous la tête des mourants. Cet esclave jaune garantira et rompra les serments, bénira les maudits, fera adorer la lèpre livide, donnera aux voleurs place, titre, hommage et louange sur le banc des sénateurs. C'est lui qui pousse à se remarier la veuve éplorée. celle qui ferait lever la gorge à un hôpital de plaies hideuses, l'or l'embaume, la parfume, en fait de nouveau un jour d'avril. Allons, métal maudit, putain commune à toute l'humanité, toi qui mets la discorde parmi la foule des nations. Ô toi, doux régicide, cher agent de divorce entre le fils et le père, brillant profanateur du lit le plus pur d'hymen, vaillant Mars, séducteur toujours jeune, frais, délicat et aimé, toi dont la splendeur fait fondre la neige sacrée qui couvre le giron de Diane, toi, Dieu visible, et qui soude ensemble les incompatibles et les fait se baiser, toi, qui parle par toutes les bouches et dans tous les sens, pierre de touche des cœurs, traite en rebelle l'humanité ton esclave, et par ta vertu jette-la en des querelles qui la détruisent, afin que les bêtes aient l'empire du monde.
Bruno Pinchard, on vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacobin, alors cette tirade géniale de Timon, c'est un personnage non pas de Marx, mais de Shakespeare. Néanmoins, c'est Marx qui le cite dans ses manuscrits de 1844, et pour dire que Shakespeare a su saisir ici l'essence de l'argent, à la fois entremetteur entre les individus et en même temps objet de culte. Est-ce qu'on a déjà là, dès 1844, ce qui va constituer l'objet du Capital, qui lui paraîtra en 1867, après une rédaction quand même d'une vingtaine d'années. Est-ce qu'on a déjà dans cette tirade de Shakespeare et de ce personnage de Timon l'essence de ce que va être l'argent déjà pour Marx ?
Je crois qu'on commence par l'essentiel, c'est-à-dire par la Renaissance. Il est impossible de mesurer la profondeur du geste de Marx sans réunir sur les fonts baptismaux du Capital Shakespeare, Luther et Rabelais. Sans ces trois-là, qui sont au fond les consciences les plus aiguës de la liaison entre la puissance financière et la passion religieuse, sans ces trois-là, le vrai pouvoir de l'argent n'aurait pas été éclairé sous son jour réel. C'est donc une affaire de prolongement d'une idée qui naît avec la Renaissance pour deux raisons. La première, c'est que le mercantilisme s'y institue au travers des grands commerces internationaux qui commencent à valoir. Mais deuxièmement, parce que la crise la religion établie à travers la réforme et les échos que aussi bien l'évangélisme de Rabelais que le théâtre de Shakespeare en enregistrent permettent de voir que naissent des pouvoirs proprement inouïs qui n'appartenaient pas à l'Antiquité et qui vont maintenant gouverner le monde et qui pourraient être définis comme au fond, l'autorité absolue de l'image, la passion de l'image. Et je pense que c'est à partir de cette passion de l'image que va commencer l'épopée de l'argent dans l'ampleur que nous connaissons.
C'est vrai que ce qui est intéressant dans cette tirade de Timon, c'est qu'il dit l'or, l'or, l'or. Nous, aujourd'hui, on parle d'argent, mais en même temps, on ne se réduit jamais au métal qui sert de support. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, en fait, de l'objet argent que l'on touche, des pièces, des billets. En fait, on parle d'autre chose que ce métal supporte. Et quelle est cette autre chose que ce métal supporte? Quelle est, en fait, à quoi renvoie cet objet métallique?
C'est-à-dire qu'il faut rendre les choses claires sous deux points de vue. D'abord, l'argent, c'est une invention extraordinaire de la puissance intellectuelle des êtres humains. C'est l'entrée dans un symbolisme qui permet d'égaliser toutes choses. On pourrait dire que le jour où les humains ont inventé ce dispositif, c'est l'acte même par excellence de l'intelligence. Je crois qu'on peut commencer par cette proposition heurtante, mais l'argent, c'est l'intelligence. Alors, à partir de là, il se trouve que pour stabiliser cet objet qu'est l'argent, on a pris des métaux fascinants, ou des pierres précieuses, et on a fait croire pendant longtemps, c'était le thème de l'avare, en somme, qu'il aimait l'or de ces pièces d'or. Mais c'est là que intervient le second moment, l'argent ou l'or ne valent dans toute leur puissance et dans leur vrai rayonnement que parce que ce n'est plus ce métal, ce n'est plus ce diamant, c'est un agent d'échange, c'est de la relation. Et la puissance financière, c'est un agent de relation, et c'est donc le triomphe absolu de la relation sur les termes qui sont reliés. Alors on sait bien, et on retrouve la question antérieure, la relation c'est l'intelligence. Simplement, il y a un moment où la relation se met à dévorer les pôles dont elle est la connexion, et on a affaire à un fonctionnalisme que Marx appelle métamorphose, métamorphose pour dire dans une langue qui lui est propre, ce que Hegel appellerait Aufhebung, c'est-à-dire c'est un moment où un objet se spiritualise et devient autonome dans sa spiritualité. Mais cette spiritualité devient dévorante, d'où le lien, comme je disais tout à l'heure, avec les religions, avec la réforme et la crise du christianisme.
Donc en fait, l'argent, c'est un objet sans objet. C'est une pure relation qui met justement en relation des objets qui seraient peut-être des marchandises, mais qui seraient aussi des individus. Néanmoins, au-delà de cette relation, et qui est peut-être un fait de l'intelligence, comme vous le dites, Bruno Pinchard, c'est aussi l'argent quelque chose qui soumet. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la croyance. L'argent a un pouvoir dans lequel on croit, plus que parfois qu'elle ne met en relation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dépasse cette idée de pure relation.
C'est-à-dire que la croyance qui meut l'argent, à mon sens, s'articule sur deux plans. Il y a effectivement, dans la mesure où c'est un équivalent, l'argent, il faut qu'il y ait une relation qu'on appelle fiduciaire et qui permet de croire que l'autre a en banque l'équivalent du document ou même de l'or ou en tout cas du billet qu'il va me présenter. Donc il y a une relation de confiance qui doit s'établir et qui est la forme du lien social. Mais derrière et plus profondément, dans la mesure où il y a cette assise très forte de la confiance, l'argent va être lié immédiatement à la dette. Et il n'y a pas de fonctionnement du capitalisme sans cette entrée dans un monde nouveau que les Romains n'avaient pas conduit jusqu'à ses ivresses, faute aussi de techniques de calcul et faute de l'institution bancaire. L'argent vit de cette confiance outrepassée qu'est la dette. Autrement dit, l'homme puissant, ce n'est pas celui qui a de l'argent, c'est celui qui contrôle les mécanismes de la dette. Et c'est vrai que quand moi-même je suis revenu à Marx, parce que j'ai connu des étapes dans ma lecture de Marx, ce qui m'a poignardé, m'a halluciné, c'est quand j'ai trouvé en premier le texte sur la dette, qui fut mon retour à Marx, parce que là, on entrait dans une économie du don, du manque, et... on y reviendra sans doute. Rabelais est celui qui, de son côté, a pensé si profondément cette dette.
Rabelais a pensé la dette, il a aussi pensé la dépense, et c'est aussi ce que pense Marx, mais en revenant à ces mécanismes, finalement, l'intérêt, on va dire, de lire Marx, c'est aussi cette idée qu'il va vouloir saisir ce qu'est l'argent, alors même que c'est un objet sans objet, alors même que c'est une pure relation, alors même justement que c'est ce qui nous échappe, c'est-à-dire que le principe de la dette, c'est aussi ce qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui les enjeux avec la dette publique, c'est de l'argent qui est stocké mais qui est invisible, qui est insaisissable. Et c'est ça aussi toute l'entreprise de Marx et à la fois sa difficulté à saisir peut-être ce qu'il a voulu dire, ce qui est à la fois très simple, en même temps très évident, ce qui est à l'image de l'argent. C'est-à-dire que l'argent est insaisissable.
C'est extraordinaire dans la contribution à la critique de l'économie politique. Marx a une phrase prodigieuse, il dit... la relation d'argent, les individus, l'échange entre les individus devient contingent. C'est-à-dire que vous ne jouez plus dans l'échange une fonction nécessaire, par exemple parce que vous avez du bien et que vous l'engagez, mais qui est, comme on disait jadis dans le monde populaire, un sou pousse un sou. Mais au contraire, vous êtes dans ce moment de trouble absolu où vous pouvez gager des choses que vous n'avez pas. Et c'est cela le point d'exercice du pouvoir. C'est celui qui décide l'ampleur de la dette dont il va faire semblant d'être le garant.
Une marchandise paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. C'est au contraire une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage, il n'y a en elle rien de mystérieux. Soit qu'elle satisfasse les besoins de l'homme par ses propriétés, soit que ses propriétés soient produites par le travail humain. Il est évident que l'activité de l'homme transforme les matières fournies par la nature d'une façon à les rendre utiles. La forme du bois, par exemple, est changée si l'on en fait une table. Néanmoins, la table reste bois, une chose ordinaire qui tombe sous les sens. Mais dès qu'elle se présente comme marchandise, c'est une toute autre affaire. À la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser les pieds sur le sol. Elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois en face des autres marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. Pour trouver une analogie à ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là, les produits du cerveau humain ont l'aspect d'être indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde marchand. C'est ce qu'on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail dès qu'ils se présentent comme des marchandises.
La domination de la marchandise s'est d'abord exercée d'une manière occulte sur l'économie, qui elle-même, en tant que base matérielle de la vie sociale, restait inaperçue et incomprise, comme le familier qui n'est pas pour autant connu. Dans une société où la marchandise concrète reste rare ou minoritaire, c'est la domination apparente de l'argent qui se présente comme l'émissaire muni des pleins pouvoirs qui parle au nom d'une puissance inconnue. Avec la révolution industrielle, la division manufacturière du travail et la production massive pour le marché mondial, la marchandise apparaît effectivement comme une puissance qui vient réellement occuper la vie sociale. C'est alors que se constitue l'économie politique comme science dominante et comme science de la domination.
C'est la voix de Guy Debord qu'on vient d'entendre dans La Société du spectacle, son film de 1973 qui reprend en partie des extraits de son livre éponyme qui lui est paru en 1967 et qui reprend également une partie du texte qu'on a entendu juste avant interprété par Jean-Louis Jacopin, ce texte de Marx, extrait du Capital. Premier livre, évidemment, section 1, chapitre 4 sur le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Guy Debord dit ce mot, Bruno Pinchard, la marchandise c'est à la fois, c'est ce familier inconnu. Et c'est exactement ce que nous dit Marx dans son texte. La marchandise est à la fois quelque chose de très trivial et quelque chose de très complexe. Vous avez parlé juste avant de la contingence de la relation qui est sûrement liée justement à cette absence de nécessité de l'objet qu'est la marchandise. La difficulté à la définir, à la fois quelque chose de complexe et en même temps de très trivial.
Il est évident que le partage classique entre valeur d'usage et valeur d'échange, qui pouvait en principe stabiliser la construction du capitalisme, s'est développé de telle façon que la valeur d'échange l'a emporté au point que... Elle s'est montrée capable de créer des valeurs d'usage. C'est ce qu'on appelle la publicité, c'est ce qu'on appelle la société du spectacle. C'est de produire du désir à partir du foyer, de l'argent, qui va à l'argent et qui produit cette métamorphose autonome en permanence. Alors, je voudrais revenir sur le texte qu'on vient d'entendre, qui est évidemment un des plus beaux textes de la pensée occidentale. Et j'insiste sur le fait que de la pensée occidentale, pour lever tout de suite une difficulté, on pourrait dire, mais au fond, en appelant ce mécanisme aberrant, le fétichisme, c'est une sorte de pensée néocolonialiste qui se sert de l'ethnologie pour montrer au fond les faiblesses ou les côtés obscurs de la société occidentale. Et à ce titre, le fétichisme ne serait qu'une sorte de triomphalisme de la rationalité du XVIIIe siècle de l'Occident. Alors, je ne pense pas. Je crois que ce mot fétichisme cache un mot plus profond, qui est le mot idole, et que ici il y a une sorte de répétition fondamentale de la posture de Moïse à l'égard du veau d'or qui est reprise par Marx et qui, au fond, s'empare de l'évolution des sciences humaines de son époque et de l'ethnologie pour désigner un problème fondamental, quels sont les rapports entre la loi et l'idolâtrie. Et le paradoxe du monde, c'est que la loi à toutes les vérités, mais ne pèse pas. Mais l'idole a toutes les faussetés, mais décide. Et cette confrontation relation entre cette antinomie du fait humain. Il est repris à nouveau frais par Marx, et il est porté à une perfection d'analyse qui fait que des gens aussi admirables que Guy Debord n'ont qu'à développer au fond les idées accumulées dans le Capital.
Mais n'y a-t-il pas une distinction à faire, Bruno Pinchard, entre idolâtrie et fétichisme?
Non, je pense pas.
Fétichisme peut c'est-à-dire qu'on choisit, le fétiche permet, en fait, on choisit arbitrairement un objet qu'on va vénérer en tant que tel, alors que l'idole va renvoyer à autre chose.
Alors, oui, mais c'est-à-dire que, évidemment, d'abord, je vous rappelle que le veau, il est en or. Et donc, on retrouve la même matière. Et ce que les modernes idolâtrent n'est pas un veau, mais c'est un nom, le dollar ou l'euro. C'est une figure, les figures que vous voyez apparaître sur les billets. Et on est plutôt passé d'une figure animalière à cet humanisme de mascarade qui consiste à aduler des visages tout en procédant à une ivresse idolâtrique.
Mais on n'aime pas les billets eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on aime ce qu'ils représentent. On aime le fait d'avoir du pouvoir. On aime le fait d'être enrichi. On aime le fait d'être à l'aise, de ne pas avoir à compter. On y est asservi de fait. Mais c'est-à-dire que cet asservissement à l'argent pour vivre au jour le jour dans une société capitaliste fait qu'on en est venu à l'idolâtrer. C'est-à-dire qu'on a renversé ce mécanisme d'asservissement. C'est comme si, du coup, on s'était dit, bon, on va reprendre le pouvoir en idolâtrant quelque chose qui nous dépasse.
Mais revenons à la question de la dette. C'est vrai que je n'idolâtre pas la figure de Berlioz qui va se trouver sur un billet. Mais ce qui m'importe, c'est que Berlioz me dit, tu peux me faire confiance. Et donc, tu peux me faire confiance, quand bien même je serai un pays infiniment endetté, fais-moi confiance. Donc le billet parle. Et comme le veau d'or parlait, parce que le veau, c'était l'animal totem de la tribu et qui permettait d'opérer des divinations capitales pour la santé et la vie de la tribu.
Alors, si le billet parle, qui est le billet? C'est-à-dire que si on donne une personnalité au billet, qui est le billet?
Il y a un mot pour dans le marxisme, dans l'œuvre de Marx, pour dire cette figure, c'est ce qu'il appelle la substance automatique. C'est-à-dire précisément, c'est une structure, c'est un process sans sujet qui parle exactement comme la loi, comme la Torah, dans l'opposition que je faisais tout à l'heure, mais qui parle depuis les entrailles du veau d'or. C'est une Torah aberrante, ou pour le dire dans une langue qui m'est plus familière, à rebours.
Allons, cher monsieur notaire, j'y versons pas. Si sincèrement vous voulez me plaire, parlez-moi d'amour avec un grand A, avec un grand A, comme dans affaire. L'argent c'est mon vice et c'est votre fief. La situation me semble opportune pour faire des folies avec un grand F, avec un grand F, comme dans fortune. Ah, que j'aime, j'aime, j'aime l'argent. Chaque fois que j'en vois, je suis blême longtemps avant de rejoindre Morphée. Le soir, quand le sommeil me manque, au lieu de vieux contes de fées, moi je rêve à des comptes en banque. Car moi j'aime, j'aime, j'aime l'argent qui résout, je l'avoue, toujours tous les problèmes urgents. Aussi, cher monsieur, si vous vous décidez à me demander quelque réjouissance, parlez-moi désir avec un grand D, avec un grand D, comme dans dépense. Et pour avoir droit d'être libertin, avec un grand L, comme dans largesse. Montrez-vous toujours tendre câlin, avec T et C, comme dans tiroir caisse. Ah, que j'aime, j'aime, j'aime l'argent. Chaque fois que j'en vois, je suis blême longtemps.
Vous écoutez France Culture, Ginette Garcin, « Ah que j'aime l'argent », la chanson préférée de Lucie Tardy. Et vous écoutez aussi les nouveaux chemins de la connaissance, où cette semaine, c'est sur l'œuvre de Karl Marx que nous nous penchons, et aujourd'hui sur la monnaie, le capital, en compagnie de Bruno Pinchard, professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3 à la chaire de philosophie de la Renaissance et de l'âge classique, président de la Société Dantesque de France, et puis auteur de « Marx à rebours », disponible chez Quimet, et aussi de « Métaphysique de la destruction », disponible aux éditions Peters.
Comme d'un pouf-pomme, puisque c'est ainsi, je n'insiste pas. Et je vous le dis, sans la moindre hargne, allez faire ailleurs vos grands types débats. Avec C et E,
comme caisse d'épargne. Car moi j'aime l'argent. Chaque fois que j'en vois, je suis blême longtemps. Peut-être que vous trouverez cela quelque peu immoral de ne trouver de l'intérêt qu'à ceux qui ont un capital. Mais moi j'aime l'argent qui résout, je l'avoue, toujours tous les problèmes urgents.
Très bien. Ben, si je peux pas augmenter le personnel sans avoir sur le dos les syndicats, le patronat, le gouvernement, je vais trouver autre chose. Alors d'abord, à la fin de l'année, je veux qu'on offre une voiture à chacun des membres du personnel. J'ai quand même le droit de faire des cadeaux, non? Bon, alors augmenter les cadences de production des usines de voitures, lancer, s'il le faut, des OPA sur les marques concurrentes, et surtout, ne me dites pas que c'est une mauvaise idée.
Au contraire, c'est excellent. Ça va faire un bon terrible à notre service de pièces détachées, ça va nous faire vendre de l'essence. Comme nous contrôlons la plupart des compagnies d'assurance...
Enfin, c'est pas croyable, ça. Alors, je peux pas avoir la plus petite idée sociale, je peux pas faire le moindre geste envers les travailleurs sans qu'immédiatement, ça me rapporte de l'argent. Je suis vraiment condamné à avoir des sous.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez en vous la dynamique de la richesse. Vous êtes pas fait pour être pauvre, alors c'est comme ça.
Non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est tout. Quand j'ai décidé d'avoir des sous, j'ai eu des sous. Et si maintenant je décide d'en perdre, je vous garantis que je vais en perdre.
Le capital est argent, le capital est marchandise. Mais en fait, la valeur se présente ici comme une substance automatique, douée d'une vie propre qui, tout en échangeant ses formes sans cesse, change aussi de grandeur et, spontanément, en tant que valeur mère, produit une pousse nouvelle, une plus-value, et finalement s'accroît par sa propre vertu. En un mot, la valeur semble avoir acquis la propriété occulte d'enfanter de la valeur parce qu'elle est valeur, de faire des petits ou du moins de pondre des œufs d'or. La valeur se présente tout à coup comme une substance motrice d'elle-même et pour laquelle marchandises et argent ne sont que de pure forme. Elle distingue en soi sa valeur primitive et sa plus-value de la même façon que Dieu distingue en sa personne le Père et le Fils, et que tous les deux ne font qu'un et sont du même âge. Car ce n'est que par la plus-value de 10 livres que les 100 premières livres avancées deviennent capitales. Et dès que cela est accompli, dès que le Fils a été engendré par le Père et réciproquement, toute différence s'évanouit et il n'y a plus qu'un seul être, 110 livres. La valeur devient donc progressive, argent toujours bourgeonnant, poussant et comme tel capital. Elle sort de la circulation, y revient, s'y maintient et s'y multiplie, en sort de nouveau accrue et recommence sans cesse la même rotation. A', argent qui pond de l'argent, monnaie qui fait des petits, money which begets money. L'argent engendre l'argent.
Bruno Pinchard, je vous demandais qui parlait à travers le billet ou qui était le billet. Et vous m'avez dit ce terme de substance automatique qu'on trouve dans ce texte qu'on vient d'entendre interprété par Jean-Louis Jacopin, donc de Marx dans le Capital. Là, c'était la deuxième section du premier livre sur la transformation de l'argent en capital. Et c'était le chapitre 4, formule générale du capital. Cette idée de substance automatique, finalement, déplie ce paradoxe de l'argent qui serait... une substance, mais sans personnalité.
Alors avant de vous répondre, et je vais vous répondre, je voudrais reprendre deux traits des extraits qu'on a entendus tout à l'heure. L'argent la rend blême. Ça m'a beaucoup plu.
La chanson de Ginette Garcin.
Voilà, l'argent la rend blême de désir, de fameuse aurie, comme le disait Virgile. C'est la couleur des modernes. Hein. Je crois que c'est la couleur de quelqu'un qui va dépenser l'argent d'un autre, son amant. Lui-même, cet autre étant probablement à découvert et la jeune amoureuse étant elle-même en dette de diverses façons. Donc, la couleur qui vient, c'est la vraie bonne mine aujourd'hui, c'est d'être blême, car on est au fond dans l'évitement de ce sang que serait une place nécessaire et active dans une société efficace. Nous sommes dans la pâleur de, non plus du manque, comme le pensait Lacan, mais du découvert. C'est la grande différence entre la psychanalyse des années 60 et ce que nous vivons aujourd'hui. Deuxièmement, Jean-Yann, quand il dit « je vous le garantis ».
Alors, donc c'est dans le film, je le dis, « moi, y en a vouloir des sous ». Alors, c'est paru en 1973, comme le film de Guy Debord, d'ailleurs.
J'ai trouvé ça admirable quand il dit à la fin « je vous le garantis, je vais, quand je vais vouloir perdre de l'argent, je vais en perdre ». Eh bien, cette garantie, c'est la figure, au fond, grotesque de la volonté aujourd'hui. On ne peut plus rien garantir. Ce qui garantit cet homme, c'est son argent. Et c'est la dynamique financière qui fait qu'il est fait pour être riche. Donc sa vraie garantie, c'est son pouvoir d'investir. Mais quand il dit, et cette fois-ci il est plus blême, mais il est rouge, c'est-à-dire qu'il est en colère. Cette colère n'est rien. Le blême était une vérité. Le rouge de la volonté, c'était l'arrogance d'un sujet qui croit qu'il peut quelque chose. Le sujet ne peut absolument rien, et donc sa garantie est déplacée, il s'estime garant, alors qu'en réalité ce sont ses biens qui sont garants. Voilà les deux choses que je voulais vous dire. La troisième va être un peu plus polémique. Voyez, maintenant je me place sur le plan de la philosophie, il est de bon ton en philosophie depuis, disons les années 1900, depuis la phénoménologie, depuis Bachelard, depuis les différentes contestations de la métaphysique, de dire la philosophie sérieuse commence quand vous renoncez à la substance. Quiconque, et ça c'est thèse à la Cassireur, s'attarde à la substance est déjà perdu pour la philosophie du XXe siècle. Or, un seul penseur s'est opposé radicalement à ces postures de l'idéalisme arrogant, c'est Karl Marx. Car Marx a dit « nous avons une ontologie, nous avons une substantialité, nous pouvons rejouer le geste aristotélicien consistant à déterminer les catégories du monde ». Donc la philosophie analytique, la phénoménologie, toutes les philosophies de la déconstruction qui voguent sur le néant de la substance, ne sont que des arrogances bourgeoises idéalistes qui sont terrorisées par la vérité, l'accent de vérité de Marx. Or, pourquoi Marx n'est-il pas supportable? Parce que la substance qu'il a fait surgir n'a pas très bonne figure. Il aurait dit « Dieu surgit », tout le monde aurait eu comme des sanglots, ou l'amour, ou l'autre, ça allait tout seul. Mais de dire que c'est l'argent, la substance du monde, ça fait grincer les chaumières, ça désespère les intellectuels, ça casse les discours. C'est pourquoi il y a aujourd'hui la place pour un réalisme spéculatif dont la substance est le cœur, à condition d'en accepter le poids théorique et qui est l'horreur d'une ontologie de l'argent.
Qu'est-ce que vous entendez par réalisme spéculatif ?
Réalisme spéculatif, c'est le fait que on peut exactement poursuivre le point de vue d'Aristote qui reposait sur la question de l'être, sauf que la question de l'être, aujourd'hui, c'est la question de l'argent. Et c'est ça la terreur. Et personne ne l'assume. Si, je crois que deux personnes l'ont assumé avec une splendeur admirable, c'est Guy Debord, on l'a vu tout à l'heure, et qui, à ce titre, son livre est le livre cardinal de la fin du siècle, beaucoup plus que les œuvres désubstantialisées de Foucault, qui a cru que le pouvoir pourrait remplacer la substance automatique de l'argent. Profonde erreur, aberration dont nous voyons aujourd'hui les effets dans la philosophie. Et le deuxième, sur un autre bord, mais admirable aussi, c'est Charles Péguy. Charles Péguy qui a écrit L'argent, qui a écrit Note conjointe, L'argent suite, enfin bon, tous les grands textes de la fin, qui sont des lucidités incomparables. Et regardez ce qu'il dit, qui résume mon point de vue, hein. Ce que tu ne donnes pas à la philosophie, c'est toujours l'argent qui l'a.
En fait, ce que vous êtes en train de dire, Bruno Pinchard, c'est que Marx est un penseur alors opposé à l'idéalisme, c'est d'ailleurs ce qui va reprocher à la philosophie, va quand même produire non pas une phénoménologie de l'argent qui serait uniquement basée sur les apparitions de l'argent, sur les effets par exemple qu'elle aurait sur les gens. Vous avez parlé d'être blême, d'être rouge, de colère, en fait toutes ces passions qu'agite l'argent chez les individus, seule manière de saisir l'argent, mais vous êtes en train de dire en fait qu'il y a derrière cette invisibilité de l'argent une véritable ontologie de l'argent comme substance automatique que seul Marx aurait mis au jour.
Absolument, et je vais vous donner une preuve. Marx a une image extraordinaire, c'est à propos des opérations autour de l'opium en Chine. Il dit aujourd'hui, le capital joue aux tables tournantes. Je crois que, en effet, il y a un spiritisme de l'argent. Que les philosophies que je viens de vous énumérer sont des variantes d'une forme d'occultisme et d'un spiritisme qui règne et fascine les philosophes depuis un siècle. Et la grandeur de Marx, c'est que il a mis la main sur la table et il l'a fixée. Elle ne bouge plus. Et c'est pourquoi, au fond, de cette façon, entre les tables tournantes de Guernesey et les tables tournantes de Londres, pratiquées par Karl Marx, en méditant la bourse londonienne, il y a une très secrète affinité.
Alors ce texte qu'on a entendu aussi, Bruno Pinchard, vous le citez dans votre livre « Marx à rebours ». Vous dites l'avoir lu en 1977, vous êtes arrêté à cette lecture, vous n'avez pas pu continuer, poursuivre votre lecture du Capital. Ce qui vous a arrêté notamment, et on n'en a pas parlé ici, c'est la manière dont Marx va mettre en fait en parallèle le Capital, la manière dont fonctionne le Capital, la manière dont le Capital incarne en fait la Trinité. Le Capital, c'est Dieu qui se distingue dans le Père et dans le Fils, en fait, le Capital qui engendre le Capital.
Vous avez parfaitement compris ce qui m'a saisi donc à la fin de ma première période de lecture de Marx, à l'époque où j'étais élève d'Althusser en réalité. Je n'ai pas pu surmonter ce blasphème, car soyons bien clairs, Marx est un extraordinaire, un très puissant, très radical et très odieux blasphémateur qui soutient, je résume, que au fond la bourse produit de l'argent comme le pain devient le corps du Christ dans l'Eucharistie. Et évidemment, il y a là une sorte d'exactitude théologique qui me fait dire que le Capital est un livre de théologie, ou pour le dire en tout cas comme Spinoza, est un livre de théologie politique, et qu'il n'y est question de part en part que de théologie. Et nous reviendrons tout à l'heure là-dessus, je veux vous montrer que le vrai matérialisme, c'est la théologie. Mais ça, c'est un autre aspect sur lequel nous reviendrons. Mais je suis heureux que nous puissions marquer ce point. Il y a une identification des liens entre la christologie et le développement du processus capitaliste en Occident. Et il m'a fallu, pour ma part en tout cas, traverser Rabelais, traverser l'appétit de mangeaille qu'il y a chez Rabelais, c'est-à-dire penser quelque chose comme l'estomac, pour pouvoir supporter des insolences aussi radicales. Et nous en sommes là.
Donc en fait, vous êtes en train de dire que Dieu, que par exemple l'argent, c'est notre nouveau Dieu. On a l'impression
on y communie, bien sûr. On y communie.
Alors, bien sûr. On a déjà du mal à se remettre de la phrase de Nietzsche selon laquelle Dieu est mort. Alors comment on va faire pour passer à autre chose? Comment on va se dire que l'argent est mort? À quoi pourrait-on passer? Qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir du capitalisme?
Non, malheureusement, si Dieu est mort, l'argent est ressuscité. C'est parce que Dieu est mort que l'argent est ressuscité.
Donc il faudrait ressusciter Dieu.
Oui, mais il y a d'autres ennuis qui viennent si on prend cette voie-là. Vous les voyez tout de suite, c'est-à-dire ça consiste à dire il n'y a qu'une finance théologiquement instruite par des autorités religieuses qui va empêcher la surproduction de l'automaticité du capital. C'est une plaisanterie évidemment, parce que les finances théologiquement rigoureuses ne sont elles-mêmes que des ingrédients, des grumeaux dans la folle dévoration de la terre par l'argent. Ce qui fait qu'ils ne sont que des accélérateurs, des petits boosters un peu occulte et un peu coupable tout à la fois. Donc, je vais plutôt dans cet autre sens. L'Occident est possédé par son christianisme. Ce christianisme est une révélation trop lourde, intolérable, pratiquement hallucinante. Et donc, l'Occident a préféré jouer dans l'argent, ce qui n'était pas représentable dans l'ordre de la transfiguration des corps.
Quelqu'un m'a rappelé, il n'y a pas longtemps de ça, que j'avais dit un jour, la cupidité c'est bien. Apparemment, c'est devenu légal. L'an dernier, mesdames et messieurs, 40% du total des profits des sociétés américaines venaient de services financiers. Pas de la production, ni de quoi que ce soit qui concerne de près ou de loin les besoins de la population. En réalité, nous sommes tous impliqués maintenant. Banque, consommateurs, on se repasse la monnaie et on tourne en rond. En fait, on prend un dollar, on le shoot aux stéroïdes, et on appelle ça l'effet de levier. Moi, j'appelle ça du dopage bancaire. La mère de tous les maux aujourd'hui, c'est la spéculation. La dette à effet de levier. Ça s'appelle s'endetter à outrance. Et je suis désolé de le dire, mais c'est le modèle économique de la faillite, ça ne peut pas marcher. C'est systémique, pernicieux, et à l'échelle du globe, c'est un cancer. C'est une maladie, et il nous faut la combattre. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous retourner cette maladie en notre faveur? Je vais vous le dire. En trois mots. Achetez mon bouquin!
La dette publique, en d'autres termes, l'aliénation de l'État, qu'il soit despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l'ère capitaliste. La seule partie de la richesse dite nationale qui entre réellement en possession collective des peuples modernes, c'est leur dette publique. Il n'y a donc pas à s'étonner de la doctrine moderne que plus un peuple s'endette, plus il s'enrichit. Le crédit public, voilà le credo du capital. Ainsi, le manque de foi en la dette publique vient-il, dès l'incubation de celle-ci, prendre la place du péché contre le Saint-Esprit, jadis le seul impardonnable. La dette publique opère comme un des agents les plus énergiques de l'accumulation primitive. Par un coup de baguette, elle doue l'argent improductif de la vertu reproductive et le convertit ainsi en capital. La dette publique a donné le branle aux sociétés par action, au commerce de toutes sortes de papiers négociables, aux opérations aléatoires, à l'agiotage, en somme, au jeu de bourse et à la bancocratie moderne. Bruno Pinchard, dès le début de notre échange, vous avez évoqué la dette, la manière dont Marx traitait de la dette dans le Capital. Je viens de lire un extrait de la 8e section du premier livre sur l'accumulation primitive. C'est le chapitre 23, la théorie moderne de la colonisation. Et juste avant, on a entendu un extrait du film Wall Street. Alors, c'est la version de 2010, pas la version des années 80, mais toujours avec Michael Douglas, qui est ce trader véreux, en fait, qui là s'est repenti et nous dit que la dette, c'est le cancer à l'échelle mondiale. Marx va continuer à donner à cette dette une dimension religieuse et finalement, c'est un vide qui remplit nos existences.
Oui, c'est-à-dire qu'il estime que seul un sujet éduqué à la vie évangélique, c'est-à-dire défini comme sujet responsable face à un Dieu qui veut le sauver, est capable de s'engager dans une relation économique où la fiabilité et en même temps le risque pris, c'est-à-dire la grâce, sont impliqués. Donc, l'idée de Marx, c'est que cette émergence du christianisme rend supportable, mais en même temps pousse à l'outrance ce dispositif. Et au fond, le sujet de la croyance est le sujet opportun pour la folie du capital. Et alors dans cette logique-là, vous comprenez bien que ça n'est pas un battleur de foire, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut arrêter le processus, même en ayant des recettes, car au sens strict, les recettes font recettes. Et il ne vaut que ce que valent ces garanties bancaires. Il est aussi fragile en proposant sa solution que Jean-Yann, quand il était tout rouge et voulait enfin devenir pauvre. Autrement dit... ce qui a été l'approfondissement de mon travail, c'était de me rendre compte au fond que Marx a commencé comme un agitateur humaniste qui portait les espérances d'une vie juste, et il a rencontré un fait que seul lui a su détecter comme une sorte de sanglier qu'il était, la truffe du monde, c'était l'argent dans son processus dynamique, pas l'argent stocké, mais l'argent investi. Et à cet instant, il s'est retrouvé devant un fait purement métaphysique. Une substance gouvernait l'univers. Et il devenait du même coup le Spinoza de l'argent. Et je crois que ce qui est extraordinaire philosophiquement, c'est que c'est un élève de Hegel qui commence dans un hegelisme libéral et qui, au lieu de répéter le geste de son maître, non plus Spinoza mais moi, eh bien lui, ça sera non plus Hegel, mais Spinoza. Et même si sa lecture n'est pas technique, même si encore une fois, il n'est pas un spécialiste, comme on dit aujourd'hui, il a élever la question de la truffe noire qu'est l'argent au rang de substance spinoziste du monde, c'est-à-dire causa sui, c'est-à-dire automatiquement engendrant son propre produit.
La véritable révolution de Marx, en fait, c'est d'avoir, à proprement parler, inversé la manière dont on concevait l'argent, c'est-à-dire de ne plus partir de ses effets, mais de revenir à la cause. Et c'est en ça que, pour vous, la révolution est plus intellectuelle chez Marx que pratique, on va dire, que militante.
Exactement, je pense qu'il y a une expérience spirituelle, c'est-à-dire que Marx, c'est un humaniste qui se brise sur le mur de l'argent. Mais au lieu de s'y briser et de rester pantelant à son pied, il entre dans le système. Et j'estime, pour ma part, que cette découverte est de même poids, et je pèse mes mots, que la découverte de la bombe atomique, à mon sens.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Bien sûr, mais je ne dis pas simplement de la scission de l'atome, ni de la mécanique quantique. Je veux dire que le capital a une capacité d'identité, d'action et de rayonnement intellectuel à la mesure de ce que Oppenheimer a fait en inventant la bombe A. Et depuis lors, nous vivons dans l'équilibre de la terreur, dans cette forme particulière qu'est l'équilibre de la dette.
Mais vous voyez bien que quand vous parlez de bombe atomique, la prise de conscience qu'on en a est déjà une prise de conscience beaucoup plus éthique, politique, morale, et que la lecture de Marx, quand je disais l'un n'empêche pas l'autre, c'est la révolution intellectuelle n'empêche pas la révolution pratique. Alors à voir ce qu'on entend par révolution, est-ce que ça va être une réforme, est-ce que ça va être des actes qui vont s'unir indépendants puis qui vont devenir collectifs, comment cette révolution, quel visage peut prendre cette révolution, mais l'un n'empêche pas l'autre. La théorie n'empêche pas le militantisme, même si le militantisme a pu obscurcir la théorie de Marx.
Ça dépend quelle est votre théorie. Parce qu'évidemment, si vous avez une théorie qui laisse la place à Fichte, c'est-à-dire à l'activisme du sujet ivre d'affirmer sa liberté et son moi, ce qu'on appellerait aujourd'hui le gauchisme, c'est évident que les deux ne se contrarient pas. En revanche, si vous êtes Marx, c'est-à-dire si vous inventez le fétichisme de l'argent et l'automaticité du capital, ça change tout. Car la pratique révolutionnaire ne va pas se passer comme application d'une théorie, par exemple la prédictibilité de la crise du capitalisme, que vous impliquez dans la Deuxième Internationale et dans les mouvements ouvriers. La véritable puissance révolutionnaire, c'est l'éclatement du concept de capital dans sa structure spéculative. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'extraordinaire lecture de Hegel que vous trouvez dans la préface du Capital, dans la préface russe, mais traduite en français, bien sûr, quand il est dit que j'ai compris Hegel, je ne vais pas développer, ça n'est pas le chien crevé que vous croyez, c'est quelqu'un qui montre que un pouvoir d'éclatement se trouve dans les concepts. Ce pouvoir d'éclatement, c'est ce qu'on appelle la dialectique, et c'est cela qui est révolutionnaire. Autrement dit, moi je suis, et c'est ce qui me distingue de mes origines auprès de Louis Althusser, bien sûr, je ne pense pas qu'il doit y avoir une pratique ouvrière de la lecture du Capital. Ce que je pense, c'est qu'il y a une puissance révolutionnaire effective qui appartient au concept et qui est au sein des entités que le Capital met en avant. L'argent, évidemment, en premier.
Alors, je vais vous poser la question d'une autre manière. C'est-à-dire que dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, lu par Jean-Louis Jacopin, donc c'était la deuxième section du Capital où Marx disait que le Capital était une substance automatique, il décrivait ce schéma qui était A'. Comment l'argent pond de l'argent, la monnaie fait des petits. C'est une relation logique qui est complètement absurde. C'est-à-dire que elle est légalisée, on l'a entendu dans l'extrait de Wall Street, c'est-à-dire que c'est le principe de la dette, d'accord, elle est rendue légale, mais elle peut être immorale, et c'est là où l'absurdité logique, l'absurdité ontologique, même si Marx l'a mise au jour, a une dimension morale de laquelle on ne peut pas se passer. C'est-à-dire que quand on lit argent devient argent prime, de l'argent augmenté, en fait, au-delà du fait que ce soit même immoral, on se dit ah mais oui, finalement, pourquoi on a besoin de que l'argent engendre l'argent? Parce qu'il y a quand même une idée de besoin derrière ça. Marx revient aux causes, vous l'avez dit. Et la cause, c'est le travail, c'est la production, c'est le rapport qu'on a aux objets, à la marchandise, pour vivre.
Il y a deux façons de faire de la philosophie. Ou bien vous faites du Platon, ou bien vous faites d'Aristote. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Si vous me dites...
Alors je fais quoi? Je fais du Aristote ou du Platon?
Là, vous faites évidemment du Platon. Vous dites, je meurs d'amour pour la justice, et je veux que la justice soit. Qu'est-ce que je fais? J'invente la tyrannie qui va imposer la justice. Je peux être aussi
mais c'est pas de la tyrannie, la morale.
La morale est de la tyrannie dès lors qu'elle ne repose pas sur la réalité des substances. Si vous voulez imposer la justice au monde, ça veut dire que vous pensez que le monde n'est qu'une image. Une image qui peut mieux participer. Vous êtes platonicienne. Et j'ajouterais plus méchamment...
Le choc.
Aujourd'hui, ce qui règne, c'est le néoplatonisme. Parce que le sujet ivre, soit de violence, soit de philosophie, soit d'intelligence... est un néoplatonicien qui dit « Mais moi, je vais vous dire que l'un n'est pas l'être. » C'est-à-dire, la justice n'est pas la production du monde. Mais on peut être aussi aristotélicien, c'est sûr, dire quelles sont les interactions réelles, qu'est-ce qui est possible comme relation d'égalité dans le rapport de force exact. Vous savez, il y a une façon très morale de lire Machiavel, ou encore, il y a une façon lucide de corriger les excès de la morale platonicienne par la morale de Machiavel, c'est-à-dire par une éthique de la vertu.
Oui, mais Aristote lui-même a distingué un schéma économique d'un schéma crématistique de pure accumulation des richesses. Donc, lui-même avait mis le doigt sur l'absurdité logique qui était en jeu avec le principe du capital.
Mais c'est pas parce que c'est absurde que ça n'existe pas, c'est ça le problème.
Oui,
c'est
bien
que...
sûr, mais l'idée aussi, c'est de se demander, est-ce qu'on doit juste le constater, l'observer et être révolutionnaire intellectuellement, ou est-ce qu'on peut effectivement en tirer des conclusions, en tirer une application, ne pas rester dans le monde des idées. Et là, pour le coup, je ne suis pas du tout platonicienne.
Ça, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr parce que ne pas vouloir rester dans le monde des idées, c'est déjà une idée platonicienne parce que vous cherchez une cora sur laquelle vous allez imprimer le sceau de votre vertu. Non. Non, je pense que d'abord, il faut être spinoziste. C'est-à-dire que il y a une jouissance à avoir compris. L'extraordinaire jouissance. Je sais, je sens, j'expérimente que je suis éternel parce que j'ai compris l'axe autour duquel tournait l'univers. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des pratiques, à mon avis, du côté de Debord, qui sont beaucoup plus décisives que la morale. C'est des pratiques de situation. Je crois qu'il n'y a que des situations particulières dans lesquelles nous pouvons être plus ou moins intelligents en rejouant la liberté de la parole contre le fonctionnement de la machine.
Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got box, who mostly Dolce down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million shells, pull a level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PG, niggas hold me down. Cuda, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. And then yell, there go Mace, there go your cutie. See me die, then see me fly. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're taking now when all the ball is stopped.
Merci beaucoup Bruno Pinchard d'être venu nous parler de la magie de la monnaie et de m'avoir appris quand même que j'étais platonicienne aujourd'hui.
Néo-platonicienne.
Néo-platonicienne, pardon. Et je rappelle donc que de vous on peut lire La métaphysique de la destruction, c'est aux éditions Peters. Marx à rebours avec lequel on a préparé cette émission, Lucie Tardy a préparé cette émission, c'est aux éditions Quimet. L'écrit sur la raison classique, aussi aux éditions Quimet. Et puis à apparaître La philosophie de l'initiation, ça c'est aux éditions Dervy, ça apparaîtra en octobre. Et puis chers auditeurs, vous pouvez aussi lire évidemment Le Capital de Marx, est disponible au PUF et en folio essai. Et puis quant à nous, on se retrouve demain pour le quatrième et dernier moment de cette semaine consacrée à Marx. Et demain, nous parlerons de la méthode critique de Marx en compagnie de Florian Nicodème. Et puis chers auditeurs, écoutez Les Nouvelles Vagues de Marie Richeux à 14h, car toute cette semaine, elle y parle de patron. Et donc, vous voyez évidemment le lien avec Marx. Puis si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site à la page de France Culture pour la télécharger ou l'écouter en ligne. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins.